UMC TV vous présente Bonjour chez vous, l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est « Dieu peut transpercer les cœurs les plus durs ». Et aujourd'hui, c'est Michael qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique « C'est mon histoire », j'ai eu le plaisir de recevoir le pasteur Semayas qui nous a raconté comment il a été libéré de l'alcool et de la drogue. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Hello tout le monde.
Hello.
Hello. Oh yes. Ça s'arrêtera là. Non, parce qu'il n'y a pas de sous-titrage et je pense à...
On est là pour la francophonie.
On est là pour la francophonie. Bien sûr que je pourrais faire cette émission exclusivement en anglais. Hein, Frank?
On te croit.
Je pense pas.
Merci. Je pense pas. Ne dévoile pas mes failles devant tout le monde, Frank. Aujourd'hui, nous allons parler de ces cœurs durs qui refusent de se donner au Seigneur, mais on va voir que Dieu peut les transpercer et on en parle avec toi, chérie, dans la pensée du jour. Le titre de ta pensée est « Jésus-Christ met l'homme face à un choix ».
Oui, tout à fait. Et dans cette émission, on va parler de cœurs durs. Et contrairement à la pensée populaire, la Bible nous montre que les cœurs les plus durs, ce ne sont pas les gens qui vivent le plus dans le péché ou qui font le plus le mal, parce que ces gens, comme par exemple Marie de Magdala, une prostituée qui menait une vie vraiment de désordre, s'est attachée au Seigneur et a changé de vie quand elle a rencontré Jésus. Mais la Bible nous montre qu'un cœur dur vis-à-vis de Dieu, c'est un cœur qui refuse que Jésus-Christ règne sur sa vie, qui refuse de se soumettre à la volonté de Dieu. Vous savez, la plupart des hommes ont décidé d'avoir pour devise « Ma vie m'appartient, j'en fais ce que je veux ». L'homme par nature ne veut pas qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Il veut rester maître de sa volonté, maître de son temps, maître de ses biens, maître de sa destinée, maître de tout. Et il ne veut pas que Dieu règne sur lui. Et Dieu appelle cela de l'orgueil. Un cœur dur, c'est un cœur orgueilleux qui refuse que son Créateur, son Dieu, pour qui il a été créé, règne sur sa vie et décide de comment il doit vivre. Et l'orgueil, c'est ce qui a fait chuter le diable dès le commencement. L'orgueil, c'est ce qui a fait chuter Adam et Ève. Et l'orgueil, c'est ce qui rend un cœur rebelle à l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez, le peuple d'Israël a été un peuple choisi par Dieu. Depuis des milliers d'années, le peuple d'Israël résiste à Dieu. Malgré tout l'amour que Dieu a démontré, malgré tout ce qu'il a fait pour eux, Israël a fermé son cœur à Dieu. Et Israël était la seule nation, à l'époque, qui n'avait pas de roi humain, de roi homme, parce qu'ils avaient un autre roi dans le royaume de Dieu, c'était Dieu leur roi. Et Dieu régnait à travers des hommes, à travers des prophètes, à travers les juges. Et en fait, à un moment donné, le peuple d'Israël a dit « Mais on est la seule nation qui n'a pas de roi ». Et ils sont allés vers le prophète de Dieu, Samuel, ils ont dit « Donne-nous un roi, nous aussi nous voulons un roi ». Et regardez ce que Dieu va dire à Samuel. L'Éternel dit à Samuel « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne pas sur eux ». 1 Samuel chapitre 8. En réalité, le peuple d'Israël était orgueilleux et ils disaient qu'ils avaient un Dieu, mais refusaient d'obéir à Dieu et de se soumettre à sa volonté. Malgré la rébellion de ce peuple, on voit que Jésus est venu quand même par amour pour ce peuple sur cette terre. Il a fait des miracles extraordinaires. Marchait dans Israël, Jérusalem, la Galilée. Il guérissait des malades. Il faisait des choses extraordinaires dans des villes. Et malgré tout, ces villes refusaient de reconnaître que Jésus-Christ était leur roi, de reconnaître que Jésus-Christ était leur Seigneur et leur Dieu. Ils refusaient de se repentir. Jésus va dire dans Matthieu au chapitre 11, verset 20, « Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avait eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, des villes étrangères au peuple d'Israël, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. » Malgré le fait que Jésus ait fait tous ces miracles, montrant sa divinité, sa puissance, son amour pour eux, sa compassion, le peuple d'Israël ne voulait toujours pas de Jésus-Christ comme roi dans leur vie. Et malgré cela, on voit que quelques hommes ont accepté, au temps de Jésus lorsqu'il était sur terre, que Jésus règne sur leur vie. Et ils avaient un cœur humble. Jésus dit, comme le cœur des enfants, un cœur qui ne va pas décider de garder le contrôle de sa volonté, mais un cœur qui accepte que son Créateur règne sur sa vie. Et lorsque Jésus était sur terre, pour savoir qui était propre au royaume de Dieu ou pas, qui était propre à faire de lui le Seigneur de leur vie ou pas, il ne passait pas par quatre chemins. Jésus donnait des ordonnances, des instructions, et il observait comment chacun allait réagir à ses ordonnances et à ses instructions. Il voyait deux hommes, Pierre et André, des pêcheurs de poissons, des hommes au cœur humble, et il leur dit « Suis-moi, et suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » La Bible dit « Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Ils laissèrent leur travail, ils laissèrent tout. Face à Jésus-Christ, ils ont accepté que cet inconnu règne sur eux. Et ils ont fait de Jésus-Christ le Seigneur de leur vie. Et on voit aussi que Matthieu, un percepteur d'impôts, il est en train de travailler sur sa table. Et tout à coup, Jésus dit, suis-moi. Et il laisse tout en plan, il va suivre Jésus. Jésus ne lui a pas jeté de sort. Il l'a envoyé une parole. Et face à cette parole, comment ils ont réagi? Ils ont décidé d'obéir, montrant par là au Seigneur, oui, j'accepte de m'humilier, j'accepte de ne plus vivre pour moi, de rester maître de ma vie, mais je soumets ma volonté à ta volonté. Et même si plusieurs l'ont fait, on voit que beaucoup d'autres personnes à qui Jésus a donné ces mêmes ordonnances, « Suis-moi, viens », ont refusé en donnant tout un tas d'excuses. La famille, le travail, l'argent ou autre. Ils montrèrent ainsi à Jésus qu'ils n'étaient pas prêts à faire de Jésus-Christ le Seigneur de leur vie. Et c'est à juste titre que Jésus va dire à toute cette foule nombreuse qui était là et curieuse, dans Luc au chapitre 17, verset 33, « Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. » Et celui qui la perdra, la retrouvera. Pour finir, j'aimerais dire à quelqu'un qui nous suit en ce moment, ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu es pour autant chrétien. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église ou que tu lis ta Bible que tu montres par là que tu appartiens à Jésus-Christ. La seule chose qui prouve que tu es entré dans le royaume de Dieu, c'est comment as-tu réagi face aux instructions de Jésus-Christ? Jésus-Christ, le roi de ce royaume, est-il devenu le seigneur de ta vie? Est-il ton maître? Est-il le propriétaire de ta vie et de tes biens? Est-il ton autorité suprême? Est-il ton Dieu? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Ou comme beaucoup de personnes, toi qui nous regardes, est-ce que tu crois, comme beaucoup, que Jésus est le sauveur de l'humanité? Ou as-tu fait de lui le seigneur, le maître de ta vie? As-tu accepté que Jésus règne sur ta vie? Personne ne peut tromper Dieu, vous savez. Plusieurs diront un jour, Seigneur, Seigneur, confessant de leur bouche que Jésus-Christ est Seigneur de leur vie. Mais en réalité, leurs actions montrent et témoignent que leur foi en Jésus-Christ n'est pas sincère, que Jésus-Christ n'est pas le Seigneur de leur vie. Alors, j'aimerais te poser ces questions. Pourquoi vis-tu encore dans le péché si tu dis de ta bouche que Jésus est ton Seigneur? Pourquoi refuses-tu d'aimer et de pardonner si Jésus-Christ est ton Seigneur? Pourquoi refuses-tu de faire sa volonté? Jésus a dit dans Luc au chapitre 6, verset 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis ?» Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ veut te mettre face à un choix. Un choix, que tu sois riche, que tu sois pauvre, Dieu veut que tu t'humilies devant Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et que tu brises l'orgueil de ton cœur qui refuse de soumettre chaque domaine de ta vie à l'autorité de Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu dois faire un choix, non pas celui de croire en Jésus le Sauveur, comme beaucoup, comme beaucoup le croient, mais celui d'entrer sur le chemin étroit et resserré, la porte étroite et le chemin resserré du salut, qui est de faire de Jésus-Christ le Seigneur, le maître, le Dieu de ta vie.
Amen, merci beaucoup. C'est vrai que c'est une décision qu'on doit prendre.
Absolument.
Et c'est une décision qu'on a tous pris un jour ou l'autre. Hein, et on doit justement se poser les bonnes questions. Est-ce que réellement j'ai fait de Jésus-Christ le Seigneur de ma vie? Est-ce que réellement je lui ai donné toute ma vie? Est-ce que réellement j'ai renoncé à mes désirs, à ma vie, à mes envies, à mes plaisirs, à mes rêves, à tout ce que j'avais planifié? Est-ce que vraiment je l'ai fait? Et puis c'est vrai que certains ont le cœur qui s'endurcit, parfois même de jour en jour, de prédication en prédication. Peut-être même certains veulent encore endurcir leur cœur aujourd'hui en entendant cette pensée du jour. Non, moi je ne veux pas, non, moi je refuse. Il est hors de question que je renonce à ça. Il est hors de question que ça me coûte encore ce prix-là, etc., etc. Et c'est très facile d'endurcir son cœur, c'est beaucoup plus facile de l'ouvrir. Pourtant, on voit dans la parole de Dieu une prophétie qui avait été donnée dans Ézéchiel 36, 26 qui concerne les temps présents et même ceux de Christ. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ce verset nous parle de ce qui arrive quand justement on ouvre notre cœur à Jésus et on le laisse venir prendre toute la place en nous et s'installer et régner dans notre cœur.
Ça, c'est une question de soumission. Puisqu'on a commencé un peu en faisant de l'anglais au début de l'émission, là, on a ce vieux chant qu'on chante « Oui, prends tout, Seigneur ». Mais en anglais, c'est, puis I will speak, je vais parler avec mon meilleur anglais, là, I surrender all. C'est-à-dire, je capitule. Oui. C'est l'expression qu'on utilise quand on est en guerre et qu'après, on baisse les armes et on dit, ben, je dépose mes armes, je capitule, ouais. je me résigne, je cède.
Oui.
Et c'est ça le problème, c'est le cœur qui est dur, c'est un cœur qui est orgueilleux et qui refuse de céder et qui résiste à Dieu. Alors qu'il faut arriver à ce point de dire, ben, je cède, je capitule, c'est toi le maître, c'est toi le Seigneur, c'est toi à qui je veux obéir, que je veux servir. C'est pas de dire, bon, je deviens partenaire avec Dieu. Non, je me soumets. Je fléchis le genou. Donc, comme on va fléchir le genou devant un roi, devant une seigneurie, eh bien ici, je capitule, je baisse les armes, je renonce à me battre et je me rends vulnérable et je me soumets à sa volonté. Et donc, c'est toute une question d'orgueil. Le cœur dur, c'est un cœur orgueilleux. Et la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, tant qu'il y a cet orgueil qui est là, eh bien, ça devient difficile. Paul est un exemple flagrant, mais quand Jésus apparaît à Paul, il lui dit « Il te serait dur de regimber contre les aiguillons ». Et là, il y a cette résistance ici, et à un moment donné, il faut capituler.
Oui.
Alors, le cœur le plus dur, ce n'est pas forcément celui qui est dans l'état de péché extrême. Il peut y avoir des gens, on va dire, mais il a une bonne vie. Oui, mais si son cœur est dur et qu'il refuse d'accepter Jésus comme sauveur, comme Seigneur et sauveur, ben, il y a un problème. Il y a un problème d'orgueil ici, et c'est ça qui doit être transpercé. Mais la bonne nouvelle, c'est le thème de l'émission, c'est que la grâce de Dieu et que Dieu peut venir eh bien, changer ce cœur de pierre et le transformer en cœur de chair, passer d'un cœur orgueilleux à quelqu'un d'humble, comme Jésus l'a été.
Pour autant qu'on le laisse faire.
Ouais. Moi, ce que je trouve terrible, c'est de voir que parfois, c'est vraiment la religion même qui endurcit le cœur de beaucoup de personnes. Et même quand on lit la Bible, Jésus s'opposait aux chefs religieux. Et parce qu'eux, ils avaient un cœur dur pour accepter Jésus, comme on est en train de dire. Et c'est vraiment triste, en fait, de constater qu'il y a des personnes qui vont à l'église tous les jours. Il y a des personnes qui se réveillent, qui disent qu'elles sont chrétiennes, qu'elles ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais à cause de la religion, leur cœur reste cependant fermé à Jésus-Christ. Et à ces personnes-là aujourd'hui, vraiment, j'ai envie de dire qu'il faut qu'elles acceptent que Dieu rentre dans leur cœur. Il y a des personnes qui nous écoutent, on leur a enseigné un Jésus, on leur a parlé de Jésus, elles ont peut-être lu pendant un petit temps Jésus dans la Bible, mais elles n'ont jamais eu la révélation de Jésus-Christ. Ces personnes connaissent Jésus comme on leur a dit, mais jamais comme elles-mêmes ont expérimenté le Seigneur Jésus. Et s'il y a des personnes qui nous écoutent qui sont dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a encore des parties de leur cœur que le Seigneur n'a pas touchées. Et c'est ce qu'il veut faire aujourd'hui, il veut transpercer et aller les chercher dans ces parties-là.
Amen.
Ben, moi, qu'est-ce que je crois, c'est que des gens à la maison présentement qui, en fait, ils sont présentement dans un combat. Juste à nous entendre parler au travers de la pensée de Michael, les gens, il y en a qui sont à la maison, il y a vraiment un combat qui est là, parce que moi, je me souviens moi-même, quand il y a eu des moments où est-ce qu'il a fallu que je cède certaines parties de mon cœur pleinement à Dieu, parce que je retenais des parties de moi-même à Dieu. Il y avait des temps où je pleurais, je pouvais être à l'église, j'entendais un message, je savais que ça me concernait, puis que Dieu il mettait le doigt dessus, hein, puis c'est pas agréable parce que tu dis « Ah !» Et là, mais il force pas, mais il y a vraiment, il va mettre le doigt pour te montrer « C'est ça, ça il me le faut, et parce que dans ta vie, ça va te bloquer de tellement de choses, et puis ça va... » empêcher la pleine manifestation de ce que je veux faire au travers de toi et toutes sortes de raisons. Et puis, il y en a à la maison qui, vous nous regardez, en fait, vous vivez ça actuellement et il faut juste être humble et fléchir le genou, comme tu l'as dit, Michael. C'est juste dire, aujourd'hui, comme le chant le dit, oui, prends tout. Là, ça, je sais que ce domaine-là dans ma vie, je le retenais et là, je le relâche. Et puis, vous allez voir, il va y avoir une paix qui va venir. Et ça, je l'ai vécu, on l'a tous vécu ici. Il y a une paix surnaturelle qui s'installe parce que vraiment, de plus en plus, on livre notre vie à Dieu. Et ça, il faut juste être humble parce qu'on doit comprendre que Dieu veut toujours notre bien. Mm-hmm. Plus que nous-mêmes, on voudrait notre bien, il sait ce qui est encore mieux pour nous que nous-mêmes, on peut le penser.
Oui.
Et puis, c'est pour ça, c'est pas pour nous enlever des choses, c'est qu'il veut enlever la honte, il veut enlever la culpabilité, il veut enlever certains péchés, il veut enlever toutes sortes de choses pour que nous, on puisse, après, par la suite, réaliser, waouh, à quel point j'aurais dû faire ça avant.
Mmh. Amen.
Et la grâce de Dieu, c'est ça, hein? C'est l'Esprit de Dieu qui vient pour nous convaincre, hein? Jésus dit, quand l'Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. Donc, le Seigneur n'est pas là en train d'attendre qu'on change.
Oui.
En disant, bon, quand il changera, quand il sera revenu de son orgueil, mais le vent souffle ou l'esprit souffle pour nous amener dans la bonne direction. Ouais. Et le problème, c'est la résistance.
C'est ça.
Quand on résiste, on sent que ça nous pousse, mais on ne veut pas. Il ne va pas nous forcer,
non.
Mais il va quand même nous pousser. Alors, c'est vrai que pour certains, ça semble assez radical. Quand on tombe de cheval, qu'il y a une lumière qui vient du ciel, on dit quand même là, ça aurait été difficile, mais techniquement, il aurait pu s'entêter.
Ouais.
Pour d'autres, ça se fait d'une manière plus tranquille, mais l'esprit est là. Et si dans ton cœur, tu sens que le Seigneur t'appelle, qu'il te pousse, que l'Esprit de Dieu là, ou comme dit l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, que le Seigneur est à la porte et qu'il frappe, eh bien, ouvre. Il ne va pas défoncer la porte, mais ouvre. Alors, peut-être qu'il va frapper un peu plus fort pour que tu entendes, si tu n'as pas entendu la première fois. Peut-être que ça va se produire de différentes manières, mais résiste pas. Il faut céder à un moment donné et on a tout à gagner. Hein.
Comment ça se fait? C'est notre conscience, en fait, qui va nous reprendre aussi. Oui. Parce qu'on sait qu'il y a des parties en nous. Et puis, Paul écrivait « Le Dieu que je sers d'une conscience pure ». C'est-à-dire qu'en lui, sa conscience ne le reprenait en rien.
Mm-hmm.
Et si, j'imagine, ça l'arrivait, eh bien, on le sait que Dieu est fidèle et juste. Si on a chuté, il va nous pardonner, tout ça. Mais notre conscience va vraiment, ça va revenir. Il va venir, puis là, non, pas tout de suite, je suis pas prêt. Mais 3 jours plus tard, c'est sûr, ça va frapper. Et là, ça va te reprendre, et puis il faut juste se soumettre.
Faut capituler, ouais.
C'est ça.
Faut capituler.
Faut capituler, c'est simplement ça. Il faut capituler à la maison. Et on va regarder maintenant le témoignage du pasteur Semayas. Vous verrez que lui ne connaissait pratiquement rien à Jésus. Et pourtant, Jésus est venu le trouver là où il était. Et il a pris la décision de dire oui et de capituler face à lui. Je vous laisse regarder ça dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le pasteur Semayas. Bonjour pasteur.
Bonjour Evelyne.
Ça va bien?
Très bien.
Génial. Merci d'avoir accepté notre invitation de venir nous partager ton témoignage.
Ah, le plaisir est pour moi.
Je le rappelle pour ceux qui ne te connaissent pas, bien que tu es quand même assez connu sur les réseaux sociaux,
chaîne
YouTube,
Dieu,
etc. Tu es le fondateur du ministère H24 pour Jésus.
Exactement.
Qui existe depuis 4 ans, tu me disais,
oui,
c'est ça?
Oui, en 2014.
En 2014.
Dans les métros de la capitale parisienne.
C'est ça, tout un travail extraordinaire que vous faites d'évangélisation souterraine, j'ai envie de dire.
On fait les rues, mais on fait beaucoup plus les métros.
Okay.
Métro, RER, et la vision, c'est d'atteindre le monde entier pour la gloire de Dieu.
Amen, amen. Et tu es aussi, depuis peu, pasteur d'une église en région parisienne.
Exactement.
À Paris, à Porte-des-Lilas, c'est ça ?
Porte-des-Lilas.
Porte-des-Lilas. Comment s'appelle l'église ?
Bah, en fait, c'est dans le même ministère, H24 pour Jésus, mais c'est l'église.
L'église H24 pour Jésus, du coup.
Voilà,
c'est
exactement.
C'est parfait. Et aujourd'hui, tu viens nous raconter ton histoire, l'histoire de ta rencontre avec Jésus, comment il est venu te chercher de façon assez surnaturelle.
C'est vrai.
Et pour introduire un tout petit peu, toi, tu es d'origine colombienne, mais tu es né en France, ouais. Donc tu as toujours vécu en France. Tu as eu une enfance plutôt normale, ouais. Tu étais un bon petit garçon. Et puis, à l'adolescence, par contre, les choses ont commencé un petit peu à se gâter.
Voilà, les choses ont commencé à changer. Et on va dire qu'à l'âge de 13 ans, le diable, en fait, c'est toujours le diable qui est derrière tout ça. Hein. Le diable, Dieu nous donne des bons cœurs, malgré que nous savons que nous sommes nés pécheurs à cause du péché de Adam et Ève. Mais nous avons des cœurs innocents et voilà, toute mon enfance, j'ai grandi dans cette innocence. Et je n'ai pas vécu dans une famille pauvre financièrement. Je n'ai pas baigné dans des choses difficiles, de beaucoup de souffrance.
C'est ça, t'as pas grandi dans des cités, etc.
Non, j'ai pas grandi dans des cités. Mais à l'arrivée du collège, c'est là où les choses sont compliquées. Là, parce qu'on commence à côtoyer, oui, des personnes qui ont grandi dans des cités, qui vivent dans des cités. Et là, c'est la loi du plus fort. Donc, il faut s'affirmer et il faut prouver ce qu'on a dans le ventre. Et c'est là où le diable profite de cela pour changer notre identité. C'est là où le diable profite de ça pour qu'on puisse commencer à vouloir chercher le respect du monde, le respect des hommes, au lieu de chercher le respect de Dieu, l'attirer l'attention de Dieu. On veut attirer le regard des autres, on veut que les gens nous respectent, que les gens nous voient bien. Et doucement, on commence à être engrainé dans certaines choses. Par exemple, moi au début c'était juste pour goûter. J'avais des amis avec lesquels que je traînais et ils fumaient la drogue, ils buvaient l'alcool, mais moi ça m'attirait pas. Et un jour pour goûter, j'ai goûté, on appelle ça le cannabis, le shit. Voilà, pour goûter, j'ai goûté et bon, j'ai pas trop aimé sur le moment. Et puis après un autre jour, l'alcool, et puis après une drogue plus forte et puis en fait tout doucement, je suis passé du shit, de la beuh, l'alcool, la cocaïne et tout doucement comme ça, on commence par goûter. C'est exactement ce que le diable a fait avec Adam et Ève. Au début, il dit, regarde, goûte la connaissance du bien et du mal, goûte ce fruit. Et voilà, l'être humain goûte au péché, simplement pour découvrir. Et c'est là où s'active cette nature du péché en nous. C'est là où on commence, parce que la chair aime, enfin les plaisirs de la chair, la nature du péché, aime cela. Donc, on active quelque chose en nous et on commence à être dépendant maintenant de ce péché, on commence à être esclave et on n'arrive plus à s'en sortir. Et c'est ce qui m'est arrivé, Evelyne, très tôt, à l'âge de 15 ans. J'ai commencé à... Voilà, au début, c'était juste pour goûter. Je suis devenu un alcoolique. Voilà, littéralement, j'ai honte de le dire. Tout ce que je raconterai dans mon témoignage, je le dirai pour la gloire du Seigneur Jésus.
Pas pour, par fierté, quoi.
Le glorifier pour ce qu'il peut faire dans la vie d'un homme et d'une femme.
Amen.
Qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Tout ce qui a été peut-être à l'œil de l'être humain impossible à beaucoup de personnes qui me voyaient autrefois. J'étais un jeune qui n'avait pas de problème financier par la grâce de Dieu. Voilà, je travaillais, je faisais des petits boulots par-ci. Pendant les vacances, j'allais travailler avec mon père ou avec mes oncles dans le bâtiment. Et je me faisais un petit peu d'argent. Et puis, bon, des choses dans lesquelles je ne vais pas rentrer en profondeur. Également dans le milieu de la délinquance aussi, que j'ai fait, qui me rapportait de l'argent. Et donc, je m'habillais. Apparemment, ça allait bien. Voilà, apparemment, le jeune... français, colombien, bien coiffé, j'avais piercing, voilà, boucle d'oreille, voilà, et tout, de la panoplie, tatouage, et habillé en mode, à l'époque, c'était en mode rappeur, tout ça. Et.
T'avais l'air cool, quoi.
Voilà, cool, avec les chaînes et tout, et puis, en fait, à l'intérieur, dépendant, tous les jours. Aujourd'hui, je suis H24 pour Jésus, mais avant, Evelyne, j'étais H24 dans l'alcool, dans la drogue, vraiment, je dis, il y a des moments où intérieurement j'étais comme un SDF, comme ceux qu'on peut voir dans la rue avec des bières Amsterdam, c'est des bières très fortes pour ceux qui connaissent, qui sont dans l'alcool, des bières, moi je buvais les bières Amsterdam les plus fortes de 12% d'alcool, et j'étais tous les jours avec mes amis, on avait une bande d'amis, tous les jours on allait fumer la drogue. On fumait beaucoup de drogue tous les jours, du lundi au dimanche. La semaine, c'était principalement beuh, shit, beaucoup d'alcool, beaucoup, plusieurs bières, plusieurs bouteilles, alcool. Je pouvais pas me passer
d'une journée. Tu pouvais pas t'en passer,
c'est ça? Je pouvais pas. J'arrivais pas à dormir, Evelyne. J'arrivais pas à dormir le soir si j'étais pas, comme on appelle dans le langage, j'étais pas foncedé. Si j'étais pas foncedé, si j'étais pas bourré.
Défoncé, voilà. Pour les plus vieux
voilà,
qui me connaissent
défoncé,
pas.
Voilà, défoncé, voilà. Déjà, défoncé, c'est déjà bien. Défoncé, malheureusement.
Ouais.
Eh bien, j'arrivais pas à dormir, je trouvais pas le sommeil. J'étais vraiment de ce côté-là tourmenté par le diable, j'arrivais pas à dormir. Je faisais beaucoup de cauchemars. Et j'aimais bien fumer parce que quand je fumais, en fait, En fait, mon cerveau, il se plongeait tellement profondément dans tellement de choses que je rêvais pas, en fait. Okay. Voilà, je me réveillais,
Tu t'en souvenais pas, en tout cas.
Et le week-end, c'était les boîtes de nuit. J'allais dans des soirées latina, ou la salsa, le reggaeton et la cocaïne. Voilà, l'alcool. Il y a des moments, Yveline, où je me suis retrouvé à boire tellement. Au début, je consommais pas la cocaïne. Au début, c'était juste l'alcool. Mais comme je dansais beaucoup, j'éliminais vite, en fait. Le corps élimine très vite lorsqu'on danse. Et comme je dansais beaucoup. Mm-hmm. Donc, ça va. Moi, je buvais de l'eau, l'alcool comme de l'eau.
C'est fou.
Comme de l'eau. Donc, au début, ça allait. Mais après, je commençais à boire plus. Et là, parfois, je pouvais m'endormir dans là. C'est humiliant, hein, de savoir que t'es un homme, t'es là et tu bois tellement d'alcool que tu bois. Et tout d'un coup, ça te monte direct et tu comprends rien ce qui t'arrive. Tu t'endors. Et après, tes potes te prennent et ils te sortent de la discothèque ou ils t'emmènent chez toi. Voilà, t'es comme vulgairement, on est mort.
Vraiment.
Mais en fait, vraiment, on est mort dans le péché. Mmh. On est mort. Et dans la drogue. Et puis après, je consommais la cocaïne beaucoup pour m'empêcher
de m'endormir, en fait. La cocaïne te gardait éveillé.
Voilà, mais éveillé, tu sais.
Lucide, en
voilà,
partie.
Ça me gardait lucide, la cocaïne. Ça me gardait lucide. Je la prenais pas la semaine, la cocaïne. Mm. Parce que déjà, ça coûtait cher. Et puis bon, c'était pas non plus quelque chose. Mais je le prenais beaucoup
en
week-end.
Fête, quoi.
Voilà, pour me garder actif. Et c'était ça, en fait. Mm. J'étais vraiment esclave de ces choses-là. Je n'avais jamais entendu parler de Jésus. Je savais pas que je pensais pas à Dieu, en fait. Je pensais pas à Dieu.
J'ai on t'avait peiné... jamais enseigné des choses chrétiennes dans ton enfance, tout ça. On te parlait de Jésus, tu savais pas qui c'était.
Ouais, j'avais entendu parler, oui. Mais la Bible dira un passage qui est très fort et qui est très réel, que je l'ai vécu littéralement et que je suis la preuve réelle de ce verset. C'est que le prince de ce monde a aveuglé les compréhensions afin que la lumière de l'évangile ne resplendisse pas dans les cœurs.
Amen.
Et c'est pour ça que beaucoup de fois qu'on parle de Jésus à quelqu'un, il te regarde mais il comprend rien du tout. Il est en train de penser à autre chose. Le diable, en fait, attaque les pensées parce qu'il sait que si cette personne écoute l'évangile, il donne sa vie à Jésus, il va être sauvé. Et le diable ne veut pas, donc il nous distrait. Et moi, quand peut-être on me parlait de Dieu, de Jésus, eh bien, je comprenais pas. En fait, j'étais distrait, je pensais à d'autres choses, ou bien j'abrévais la conversation, je changeais de la conversation. Ma grand-mère, ma famille, toute ma famille du côté père et mère de Colombie, en fait, sont de tradition catholique.
Catholique, j'imagine.
Donc moi, oui, j'ai fait, la première communion, j'ai été baptisé quand j'étais petit, confirmation, mais
tu comprenais rien.
On comprend rien. C'est des traditions, tu comprends rien. Et j'avais jamais lu la Bible de ma vie. Alors, ce qui s'est passé dans ma vie, c'est qu'à cette époque-là, où voilà, les boîtes de nuit, l'alcool, la drogue, vraiment, j'arrivais pas à sortir de ça. C'était honteux, Yveline, d'arriver chez soi, ma mère, parce que j'ai pas grandi, mon père n'habitait pas avec moi. Aujourd'hui, c'est un homme de Dieu, par la grâce de Dieu,
Alléluia.
Dieu a touché son cœur. À l'époque, j'avais cette rancune envers mon père, parce que, à cause du diable, voilà, mon père qui n'était pas encore dans le chemin de Dieu, ma mère non plus. Donc voilà, quand deux personnes ne sont pas avec Dieu, forcément, il y a des choses, la jalousie d'une femme, et les erreurs d'un homme qui commet des erreurs hors du foyer. Et ça a provoqué une déchirure dans le foyer. Je suis le fils aîné de 5 frères et sœurs. Et donc voilà, malheureusement, lorsque un père ou une mère n'ont pas Dieu dans leur cœur, ils parlent mal de leur ex.
Oui.
Voilà, donc ma mère, malheureusement, une femme qui avait beaucoup souffert et qui n'avait pas encore l'amour de Jésus-Christ dans son cœur, beaucoup d'amertume, beaucoup de paroles de suicide. J'ai grandi dans ces choses-là. Parfois, je rentrais de l'école, je voyais ma mère pleurer vraiment avec de la souffrance. Le diable, spirituellement, en fait, il y a un monde spirituel qui envoie des esprits de suicide, de dépression, d'amertume. Moi, j'ai grandi dans cette ambiance-là. Et ça m'a beaucoup affecté. Ma mère qui me disait, ton père t'a abandonné. Ton père, voilà, il est parti avec une autre femme. Mmh. Il a d'autres enfants maintenant. Ou il aime les enfants d'une autre femme. Et ça t'affecte en tant qu'enfant.
Oui.
Mais ma mère n'avait pas la connaissance d'évangile. Maintenant, c'est une femme formidable. Ma mère, c'est une femme formidable. Et c'est d'ailleurs... Pourquoi je vous parle de ma mère, Yveline? Parce que ma mère, à l'âge de 15 ans, a été évangélisée. Voilà. Quand j'étais dans cette époque-là de ma vie, où j'étais vraiment profondément dans le péché, dans la délinquance, dans tellement de choses, j'étais esclave, noyé, comme le dit le titre de cette émission.
Oui.
J'étais noyé. Pourquoi noyé? Parce que, littéralement, je n'avais plus pied. Je n'arrivais plus à sortir. J'essayais de nager pour sortir ma tête, pour sortir de l'alcool, de la drogue. J'arrivais pas. J'arrivais peut-être un jour, après je retombais encore. C'était trop dur d'arrêter de fumer, d'arrêter de boire d'alcool. J'arrivais pas à aller un week-end sans aller en boîte de nuit. Et pendant ce temps-là, quand j'avais 15 ans, ma mère s'est fait évangéliser. Une personne qui a osé apporter la bonne nouvelle. Voilà, une chrétienne qui a obéi à la grande commission. eh bien, elle n'a pas eu honte, elle n'a pas regardé à l'apparence de ma mère, elle est partie lui parler de l'amour de Jésus, mm-hmm. et ma mère a fondu en larmes. Ma mère, une Colombienne qui est apparemment bien habillée, belle, ma mère, et puis apparemment, on donne beaucoup une apparence parfois pour cacher les souffrances qu'on vit à l'intérieur.
C'est vrai.
Mais le Saint-Esprit avait révélé l'intérieur du cœur de ma mère à cette femme, mm-hmm. et elle a dit, tu sais, Jésus peut te restaurer, Jésus peut te guérir. Et ma mère, elle a commencé à fondre en larmes et puis elle a donné sa vie à Jésus.
Wow.
Elle a commencé à aller à une église évangélique mm-hmm. et ma maison est devenue une maison de prière en fait.
Moi, elle intercédait pour toi en fait.
Voilà, elle a commencé mm-hmm. à non seulement intercéder, mais aussi le salon de ma maison, où on habitait avec ma mère. Eh bien, elle a ouvert les portes pour que ce soit les réunions de prière.
D'accord. Ah oui, littéralement. Alors.
Littéralement, elle a ouvert son cœur à Jésus, mais elle a aussi ouvert les portes de sa maison. Et vous savez, il y a un impact, parce que la Bible dira également que là où il y a le Saint-Esprit de Dieu, il a la liberté. Mm-hmm. Alors, dans le salon, il commençait à prier. Vous savez, quand nous, les chrétiens, on commence à prier, à parler en langue, et on commence à chanter des louanges. Mm-hmm. Et moi, j'étais enfermé avec mon petit frère je voulais pas sortir de ma chambre. On jouait à la play, et on voulait pas sortir. On trouvait ça bizarre un peu.
Mais bon, oui.
On respectait parce qu'on avait vu notre mère pleurer pendant tellement d'années. Et là, on la voyait s'épanouir. Donc, ça nous faisait plaisir quand même.
Mm-hmm.
Mais nous, on respectait, mais moi, j'ai toujours respecté l'islam, le christianisme, mais ça m'a jamais intéressé.
Et
même dans la rue, je traînais
avec
des musulmans.
Hein.
Parfois, les week-ends, j'allais pas dans des boîtes de nuit françaises, j'allais beaucoup dans le milieu latino.
Mm-hmm.
Donc, les gens qui, voilà, soi-disant, les latinos sont chrétiens, les arabes sont musulmans. Et en fait, l'alcool, la drogue, on ne comprend plus rien, donc ça m'a jamais attiré.
C'est ça.
Ma mère priait pour moi,
une expérience assez folle.
À mes 19 ans, le 6 mars 2010, plus précisément, Evelyne, à 3h du matin, j'étais dans le 18e arrondissement de Paris, près de la Goutte d'Or, pour ceux qui connaissent, à la Chapelle. Et ce soir-là, j'étais avec deux amis qui n'étaient pas fréquentables, en fait. Mais moi, j'étais pas quelqu'un de fréquentable. Et en fait, ils étaient couchés, voilà, ils devaient travailler le lendemain. Mais moi, comme un samedi, je n'arrivais pas à dormir. Donc, j'étais éveillé à 3h du matin. Lumière éteinte, la lumière de la fenêtre qui rentre dans l'appartement. Et tout d'un coup, je sens que mon corps commence à trembler, que je sens quelque chose qui descend dans mon corps. Je sens que mon cerveau s'anesthésie. Et là, je me dis, waouh, je vais mourir. Il va m'arriver un truc bizarre, une crise cardiaque ou un AVC ou qu'est-ce qui va m'arriver, truc bizarre. Pourquoi moi, c'est tombé sur moi, c'est bon, je suis jeune. J'avais 19 ans à l'époque. Et c'est jusque là que, voilà, la vie m'a ramené. Je vais mourir tout seul. Mes potes ne vont même pas le savoir. Et là, je m'assois, mon corps commence à trembler, mon cerveau anesthésié. Et je commence à secouer mes amis, regardez ce qui m'arrive, ils se réveillent pas.
Oh.
Et ça me rappelle aujourd'hui, maintenant que je lis la Bible, l'histoire où Dieu a plongé l'armée de Saül, le roi Saül, dans un profond sommeil.
Oui.
Et le roi David a pu couper le bord du manteau, et moi je l'ai vécu littéralement. Mm-hmm. J'ai vu mes amis, je les secouais, je dis, regardez les mecs, en espagnol, je leur disais, regardez, c'était des Colombiens, regardez ce qui m'arrive. Ils se réveillaient pas. Ils ronflaient, moi je dis, mais qu'est-ce, je les secouais, ils se réveillaient pas. Et là, je commence à avoir peur. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et tout d'un coup, j'entends une voix qui commence à me parler. Une voix dans ma tête qui commence à me parler et qui me dit en espagnol à 3 reprises, reviens-moi comme je t'ai ramené au monde. Et là, je dis, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que c'est ce délire? Imaginez le contexte. Un jeune de quartier, un jeune qui est dans l'alcool, dans la drogue, dans beaucoup d'autres choses, qui ne connaît pas Jésus, qui n'a jamais lu la Bible de sa vie. Et j'expérimente le surnaturel pour la première fois de ma vie.
Là, tu t'es dit que tu avais peut-être pris un peu trop de drogue, non?
Ouais, et le pire, c'est que ce jour-là, je n'avais même pas pris trop de drogue. C'est ça le pire. Un petit pilon, quand tu es dans la rue, c'est rien. Hein. Mmh. On appelle ça un petit pilon, un petit joint.
Cheat.
Voilà, un petit joint, quoi. J'avais pas. Voilà, j'avais bu une petite bière, mais ça, c'est rien. Quand tu es dans ce milieu-là, c'est rien, ça, une petite bière. Et...
Mais là, vraiment, Dieu te parle.
Et là, Dieu
et
me
ça
parle.
Change toute ta vie.
Et là, je me rends compte que, en fait, c'est des choses qu'on ne peut pas exprimer. On ressent.
Mmh.
Il y a la voix qui te parle, mais tu sens Dieu. Tu sens la gloire de Dieu. Et tu dis, en fait, il y a un Dieu.
Mmh.
Il y a un Dieu dans ce monde. Il y a un Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, en fait, j'ai dit, Seigneur, toute ma vie, j'ai vécu dans un mensonge. J'ai vécu dans ce monde de péché, de tout cela. Et en fait, bon, après cette nuit-là, il s'est passé beaucoup de choses. Mais le lendemain, j'ai compris, en fait, qu'il y avait un Dieu. Et j'ai compris qu'il y avait aussi le diable qui voulait ma mort, comme Dieu voulait ma vie. Me sauver, le diable voulait que j'aille en enfer avec lui.
Oui.
Donc, moi, je suis parti voir ma mère, j'ai dit, maman, c'est où tu vas les dimanches? Elle m'a dit, je vais à l'église. Et j'ai dit, bah, demain, je vais avec toi. Ma mère qui pleurait, beaucoup de fois, je rentrais droguée, alcoolisée à la maison, et elle souffrait, ma mère. Et puis là, elle a prié pendant 4 ans, et les prières de ma mère ont été exaucées.
Amen.
Gloire soit rendue
vraiment
à Dieu. Et après cela, bon, tout est passé très vite, mais par la grâce de Dieu, j'ai eu une conversion radicale. j'ai coupé avec cela, j'ai suivi l'enseignement de la Bible. Il faut fuir le péché.
Oui.
Donc je savais que si je restais dans ce milieu avec mes potes, avec quoi côtoyer, être proche de l'alcool, de la drogue, de la délinquance, de ces milieux-là, j'allais pas pouvoir m'en sortir. Donc j'ai coupé beaucoup de choses, des choses qui m'ont fait mal. J'ai dû couper des relations, j'ai dû couper des amitiés, j'ai dû trancher avec l'alcool, la drogue. J'étais radical et j'ai donné ma vie à Jésus. Ma façon de parler, j'ai enlevé voilà les boucles d'oreilles, le piercing, ma façon de m'habiller, ma façon de même de parler, tout Jésus n'a pas changé ma vie, il m'a fait un homme nouveau.
Amen.
Voilà, si peut-être on dirait que c'est plus la même personne. Voilà. J'aimerais citer ce passage qui est dans la lettre, deuxième lettre de Corinthiens, qui était écrit par l'apôtre Paul, et il dira au chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
Amen.
Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mon cœur a été délivré du désir du péché, de l'alcool, de la drogue, de tellement de choses, de la débauche, délivré de la rancune envers mon père. Dieu nous a réconciliés, nous a mis ensemble. Voilà. Maintenant, on a une très bonne amitié, même. On est déjà évangélisés ensemble. On a pu faire beaucoup de choses ensemble. On prie ensemble. Ma mère aussi, Dieu l'a fait une œuvre merveilleuse dans sa vie. Et c'est formidable, c'est formidable. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis le fondateur d'un ministère, par la grâce du Seigneur, qui s'appelle H24 pour Jésus, à Paris,
oui.
Qui a pour but d'évangéliser du lundi au vendredi, matin, midi et soir. Voilà, on était H24 pour le diable avant, maintenant on vit pour Dieu.
Amen.
Il faut qu'un maximum de personnes puissent venir à la vie éternelle, puissent être sauvés. Trop de gens, des milliards, nous sommes 7 milliards sur Terre. Combien de milliards de personnes, Yveline, à ce moment-là où nous sommes en train de parler, toi et moi, sont en train de vivre dépendants. Même aujourd'hui, même des musulmans, des chrétiens, même, pour aller plus loin encore, des imams, des pasteurs, des rabbins, qui sont en train de vivre dans l'alcool. Encore esclaves, ils le disent à personne, mais ils vivent dans l'alcool. Ils fument encore la cigarette, consomment encore la drogue, l'alcool, ou regardent tellement de choses. Des jeunes, la jeunesse est en train de se perdre dans l'alcool, dans la drogue. On banalise ces choses-là. Mais combien d'accidents de voiture il n'y a pas par an à cause de la drogue, de l'alcool? Combien d'hommes qui n'auraient jamais trompé leur femme ou de femmes qui n'auraient jamais trompé leur mari à cause de la drogue et l'alcool ont franchi cette étape-là?
Oui.
Et il n'y a que Jésus qui peut faire cela. Il faut être radical. Il ne faut pas jouer avec le péché. Quelqu'un qui te dira, non, mais c'est rien, l'alcool, la drogue, tu peux boire un verre, c'est mensonge du diable. Si tu as été dépendant de ça, sois radical. Aujourd'hui, j'ai choisi d'être radical. Même pas une bière, rien du tout. Même pas une cigarette. Il faut couper radicalement. Demande à Dieu et il va te donner la force. Combien de meurtres, de guerres ne sont pas commis aujourd'hui à cause de la drogue et l'alcool? Et j'aimerais dire te dire à toi qui regarde aujourd'hui cette émission, si tu es noyé comme moi avant dans la drogue, dans l'alcool ou bien dans n'importe quel péché, dans l'amertume, dans la tristesse, Jésus-Christ est la solution, il peut te sortir de là. Il t'aime, il a donné sa vie à la croix pour prendre tes péchés. Il veut sauver ton âme, t'offrir la vie éternelle. Mais le diable veut te garder esclave de ce que tu vis aujourd'hui. Alors à partir d'aujourd'hui, prends une décision radicale. Je vais t'inviter à faire une prière avec moi de tout ton cœur. Après cette émission, cherche une église évangélique, commence à lire la Bible, ce merveilleux livre qui a changé ma vie. Moi, un jeune de quartier qui n'aimait pas lire, qui m'a fait virer de plusieurs établissements, même interdit d'être dans un établissement dans tout Paris, eh bien Dieu m'a donné l'amour de la lecture à travers la Bible. Fais cette prière avec moi de tout ton cœur si toi tu veux t'en sortir, tu veux que Dieu sauve ton âme. Là où tu es, dis-lui, Seigneur Jésus-Christ, je me repens de tout mon cœur pour tous les péchés que j'ai commis. J'ai essayé de m'en sortir avec mes forces, je n'ai pas réussi, Seigneur. Aujourd'hui, viens me délivrer, Seigneur. Merci d'avoir sauvé mon âme. Restaure ma vie, restaure mon foyer. Ramène-moi ta joie, ton amour, au nom de Jésus. Amen. Merci,
Amen.
Yveline, merci pour ce moment. Que toute la gloire soit rendue à Jésus-Christ.
Amen. Merci beaucoup à toi, pasteur Semayas. Merci d'être venu nous partager ton témoignage et longue vie à ton ministère.
Amen.
Encore un témoignage merveilleux de ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Vous voyez que peu importe dans quelle situation on est, peu importe à quel point on a soit aucune connaissance de Christ ou soit tellement de connaissances qu'on a complètement endurci son cœur parce qu'on est tombé dans la religiosité plutôt que dans une relation, Dieu peut transpercer les cœurs les plus durs. C'est le thème de cette émission, puis c'est vraiment ça que comme message qu'on veut vous laisser aujourd'hui.
Ouais.
Donc si vous avez senti une résistance, si vous avez senti que justement il se passait quelque chose à l'intérieur de vous pendant cette émission, c'est peut-être que vous n'avez pas tout abandonné au Seigneur. Et puis en dedans de vous, de toute manière, vous le savez. Aujourd'hui, vous êtes face à un choix, à une décision que vous pouvez prendre de faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie, de lui abandonner toute votre vie, absolument tout, de renoncer à toute votre vie, ou tout simplement de continuer à endurcir votre cœur et de résister. Mais sachez que vous ne trouverez pas la paix jusqu'à ce que vous ayez finalement décidé de capituler devant le Seigneur. Donc merci à chacun d'entre vous pour cette émission, merci pour toute cette semaine qu'on a passée ensemble. On se retrouve la semaine prochaine, je vous souhaite un merveilleux week-end et bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.